Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Deux associations dressent le premier inventaire des établissements d'Île-de-France et à Marseille en fonction des polluants auxquels les enfants sont exposés. Et le dioxyde d'azote dépasse trop souvent les seuils autorisés, vous l'entendrez.
Nous ferons ensuite un point précis sur les derniers rebondissements autour du Brexit au Royaume-Uni. Theresa May se dit prête à démissionner pour faire voter son texte.
En France, le président a lui accepté hier 3 démissions. Le remaniement s'annonce plus large que prévu face aux élections qui se profilent, vous le comprendrez.
Et puis une pièce d'Eschyle perturbée par des antiracistes en début de semaine à la Sorbonne sera reprogrammée. Des étudiants accusent la mise en scène d'être racialiste parce que certains acteurs portent des masques noirs. Nous y reviendrons.
Le billet politique et son titre ce matin, entre Place publique et le Parti socialiste, les ratés du Nopéa. Frédéric Seyss s'en expliquera après ce journal. La pollution de l'air met des milliers d'enfants en danger. Voici l'alerte lancée ce matin par Greenpeace. L'ONG a superposé les cartes des établissements scolaires à Marseille avec les niveaux de pollution relevés dans la ville. 25% des écoles sont au-dessus des seuils autorisés. Parallèlement, l'association Respire a fait la même chose en Île-de-France et le constat est le même pour la ville de Paris. L'air de 26% des crèches et écoles maternelles parisiennes est jugé trop pollué. Bonjour Bastien Roch.
Bonjour.
Le constat dressé par ces cartes, Bastien, est plutôt sombre.
À commencer par celle de Marseille et des communes voisines. Selon Greenpeace, plus de la moitié des crèches et des écoles sont à moins de 200 mètres d'une zone où la pollution au dioxyde d'azote dépasse les seuils légaux. Un quart se trouve même à moins de 50 mètres de ces zones, avec bien sûr des conséquences néfastes sur la santé des enfants. La situation est à peine meilleure à Paris. Un quart des écoles sont dans des zones où le taux de dioxyde d'azote dépasse ces seuils. Et même pour 85% d'entre elles, ce taux dépasse aussi les seuils plus stricts fixés par l'OMS. L'association Respire reconnaît tout de même que la situation s'est nettement améliorée dans la capitale depuis 2012. Dans les deux cas, Greenpeace, Respire et leurs partenaires alertent sur la proximité des établissements concernés avec les grands axes routiers, des axes très fréquentés aux heures de rentrée et de sortie des écoles.
Alors que faire, Bastien, selon ces associations pour lutter contre cette pollution ?
Eh bien, dans les deux cas, les recommandations sont assez similaires. Créer des zones à faibles émissions ambitieuse, c'est-à-dire réduire la circulation de voitures et de poids lourds et à terme, un jour, sortir définitivement du diesel puis de l'essence. Un tel projet est déjà à l'étude en Île-de-France, dans la zone entourée par la 86. L'association Respire demande donc aux élus d'intensifier leurs efforts. Elle propose aussi de mettre en place des voies vertes sur les autoroutes. Ces voies seraient réservées exclusivement aux véhicules électriques, aux transports en commun ou même au covoiturage. Le but, vous l'aurez compris, c'est d'inciter les automobilistes à privilégier ces modes de transport. Enfin, Greenpeace et Respire souhaitent restreindre la circulation aux abords des écoles par une série de mesures en faveur des piétons et des transports en commun.
Merci beaucoup Bastien Roch pour ces précisions ce matin. Abaisser les émissions de dioxyde d'azote fait partie de la transition énergétique plus globale. Au niveau mondial, la Suisse, la Colombie et la Suède seraient les meilleurs élèves selon une étude du groupe Edmond Rothschild. La France, elle, se classe en 7e position. Les États-Unis sont 48e. Le Qatar, 60e et dernier de ce classement. Reste surtout, selon le groupe, à améliorer les types de consommation d'énergie. En bref encore, et au chapitre écologie et santé, un jury populaire américain a condamné hier soir Monsanto. Le groupe doit payer 71 millions d'euros à un retraité malade d'un cancer qu'il attribue au Roundup, cet herbicide du géant de l'agrochimie. Bayer Monsanto va faire appel de cette décision. Une démission contre un accord. La première ministre britannique Theresa May a mis son poste dans la balance hier soir. À moins de 48 heures de la date prévue pour le Brexit, elle entend forcer le Parlement britannique à adopter son accord de sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles. Une démission donc si et seulement si les députés acceptent son texte. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Isabelle, rien ne dit pourtant que cette stratégie de la dernière chance va fonctionner.
Effectivement, parce que même si elle réussit à retourner, aller en gros une quarantaine de députés conservateurs, eh bien, ça ne sera sans doute pas suffisant. Theresa May doit obtenir 75 voix supplémentaires pour faire passer son texte. Or, dès hier soir, les élus du DUP, le Parti unioniste d'Irlande du Nord, ont refusé de jouer le jeu, expliquant qu'ils ne pouvaient pas soutenir un accord mal fagoté. Or, sans leur appui, on ne voit pas comment la première ministre peut obtenir la majorité. Theresa May va-t-elle donc pousser sa logique jusqu'au bout, demander une troisième fois le vote du Parlement sur un accord qui n'aura pas changé d'une virgule? Tant qu'elle n'est pas dans le mur, la première ministre croit toujours qu'une solution est possible.
Et Isabelle, que va-t-il donc se passer maintenant ?
Les tractations vont continuer en coulisses pour grappiller une à une toutes les voix des opposants. Si le plan de Theresa May est remis au vote et s'il est accepté, eh bien le Royaume-Uni peut sortir en douceur de l'Union le 22 mai. En revanche, si ce plan est rejeté par le Parlement, Londres a jusqu'au 12 avril pour proposer une solution alternative. Élections anticipées, convocation d'un second référendum, long report du Brexit, voire pas de Brexit du tout. Les députés ont rejeté toutes ces options hier, ils n'ont accepté qu'un report du Brexit. Ce matin, la presse britannique n'est pas tendre avec Theresa May. Le Sun parle d'une farce intégrale dont la représentation va durer encore quelques semaines.
Merci Isabelle Labéry pour le feuilleton du jour sur le Brexit.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En France aussi, un changement se profile au sein du gouvernement avec 3 départs annoncés.
3 démissions, celles-ci ont été actées, acceptées par Emmanuel Macron hier soir. La désormais ancienne ministre Nathalie Loiseau portera la liste de la majorité aux européennes, ça nous le savions. Mais une autre élection bouleverse l'organigramme. Les municipales, dans un an, son candidat à Paris, Benjamin Griveaux, jusque-là porte-parole du gouvernement, et Mounir Majoubi, chargé du numérique. Tous les deux quittent donc le gouvernement, Rosélie Lafarge.
Faire d'une pierre 3 coups, c'est peut-être ce qu'il y avait de plus simple pour l'Élysée. Plutôt que de remanier l'équipe d'abord pour remplacer seulement Nathalie Loiseau et plus tard pour trouver les successeurs des volontaires pour la mairie de Paris, l'exécutif fait son ménage de printemps maintenant et ce choix d'agenda interroge. On est à 2 mois du scrutin européen, à 1 an des municipales. Sortir tous les candidats en même temps, n'est-ce pas prendre le risque de brouiller le message? C'est le regret de certains dans la majorité. Benjamin Griveaux force la main et sa se voit, ces enfantillages risquent de coûter cher au lancement de la campagne européenne, critique un marcheur. Chez les proches du désormais ex-porte-parole du gouvernement, on tempère. On veut voir ici un choix partagé avec l'exécutif pour tester au mieux la candidature de Benjamin Griveaux à Paris. Mais sortir Benjamin Griveaux, cela voulait dire forcément sortir le secrétaire d'État Mounir Majoubi. Lui aussi se verrait bien à la mairie de Paris et on voit mal l'exécutif avoir un candidat dehors, un autre dedans. La bataille pour la capitale est donc bel et bien lancé au sein du parti majoritaire. Le gouvernement, lui, doit se pencher sur les remplaçants des sortants. Si des noms circulent déjà, les nominations n'interviendront normalement pas avant le retour du Premier ministre. Édouard Philippe en déplacement au Qatar jusqu'à demain.
Et pour pourvoir ces 3 postes, le gouvernement a le choix. Droite, gauche, centre, société civile. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les lignes sont assez floues. Le clivage traditionnel entre la gauche et la droite est moins affirmé. Un clivage théorisé dans l'ouvrage sorti hier en librairie qui s'intitule « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Il est signé par 2 anciens conseillers de l'Élysée, Ismaël Emelien et David Amiel. Pourquoi la politique dite traditionnelle ne fonctionne plus, selon eux? Les 2 hommes ont leur explication, Stéphane Robert.
Le clivage droite-gauche correspond, selon les auteurs, à la société du XXe siècle. À ce moment-là, il y a d'un côté, théorise-t-il, les libéraux de gauche, favorables à l'égalité économique, qui s'allient avec les marxistes pour exercer le pouvoir, et les libéraux de droite, favorables à la liberté économique, alliés traditionnels des conservateurs, car ils estiment que le maintien de l'ordre sociétal favorise les affaires. Seulement, la gauche a d'un côté fini par entériner le libéralisme économique, et la droite a, elle, accepté que l'économie soit régulée. Par ailleurs, ajoute-t-il, la société a continué d'évoluer vers une constante et progressive autonomisation des individus qui a fait que petit à petit, chacun s'est émancipé des doctrines préfabriquées qui permettaient aux partis politiques traditionnels de canaliser les aspirations de la société. Le résultat est que les différences entre droite et gauche se sont estompées, que les discours, à droite comme à gauche, sont apparus de plus en plus en décalage avec l'exercice du pouvoir et petit à petit est apparu un écart entre la promesse d'émancipation des individus et la réalité de ce qu'ils vivaient au quotidien. Cet écart s'est transformé en frustration, en colère et en rejet des élites. Les formations politiques traditionnelles s'en sont trouvées discréditées et dévitalisées, ce qui a conduit au regroupement des libéraux de gauche et des libéraux de droite au sein du projet progressiste porté par Emmanuel Macron. Les camps traditionnels en ont été réduits à leurs extrêmes, à droite comme à gauche, qui se nourrissent des frustrations et des colères. Ce changement est profond et durable, selon David Amiel et Ismaël Emelien. On ne reviendra pas en arrière.
Alors qu'en pense notre invité des matins de France Culture, François-Xavier Bellamy? Vous êtes, je le rappelle, professeur de philosophie à la tête de la liste du parti Les Républicains pour les élections européennes. Vous reconnaissez-vous dans ce nouveau clivage populiste versus progressiste?
Bien sûr que non. Et je crois qu'il y a, au fond, derrière l'idée de ce clivage, une forme d'incroyable facilité intellectuelle. L'idée que, finalement, maintenant, l'axe qui sépare les camps politiques, c'est l'axe qui séparerait les, au fond, les bons des mauvais, ceux qui veulent l'avenir et ceux qui sont du côté du passé. Je crois que la grande question n'est pas, encore une fois, de savoir si on est pour le progrès. Tout le monde veut progresser. Tout le monde veut que notre société puisse faire des progrès. La grande question politique, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est un progrès. Et j'observe d'ailleurs d'une certaine manière que les Français résistent à cette espèce de scénario qu'on voudrait leur imposer. L'idée qu'il n'y aurait plus de débat, mais maintenant seulement un combat entre populistes et progressistes, cette idée-là, elle ne fait pas recette. Comme le dit Vincent Trémolet-Villers dans l'édito du Figaro d'aujourd'hui que je vois sur votre table, et au fond, aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron totalisent dans les sondages 45% des suffrages, c'est beaucoup. Mais la bipolarisation dont rêvent Ismaël et Meulien, cette bipolarisation, elle n'existe pas. Je crois que ce qui fait le désespoir politique de nos concitoyens, et ce qui d'ailleurs fait le lit du populisme, c'est l'idée qu'on leur propose qu'il n'y a pas d'alternative. Au fond, c'est une sorte de... Vous connaissiez ce mot de Margaret Thatcher, « there is no alternative », c'est une forme de tina souriant qui nous est proposée par Ismaël et Meulien, l'idée que de toute façon, il y a d'un côté les bons gestionnaires et ceux qui sauront nous guider vers l'avenir, et de l'autre côté, des forces obscurantistes. Cette perspective-là, elle n'est absolument pas démocratique et elle me paraît être l'occasion d'une pensée unique qui empêche vraiment le débat.
François-Xavier Bellamy, nous vous retrouvons avec Guillaume Herner dans 5 grosses minutes. Avant cela, la suite de l'actualité du journal avec ses conclusions d'un rapport remis aujourd'hui au gouvernement. La population française comptera 3 fois plus de personnes de plus de 85 ans en 2050 et dès l'année 2030, elles seront plus nombreuses que les moins de 20 ans. Le rapport remis aujourd'hui vise à réformer le financement des maisons de retraite. Rebelote chez Carrefour, après les 2000 emplois supprimés au siège du groupe de la grande distribution après la fermeture de magasins, eh bien la direction annonçait hier la suppression de 1200 postes supplémentaires, principalement dans les rayons non alimentaires. Elle souhaite passer par une rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire un accord avec les syndicats. Un rassemblement avait lieu il y a encore 2 jours à Paris devant l'ambassade du Nicaragua. Au même moment, 3 militantes anti-Ortega fuyant leur pays plaidaient leur cause dans la capitale française avant de reprendre leur tour du monde. Preuve que la crise politique au Nicaragua n'est pas finie. Près d'un an après les manifestations réprimées dans le sang par le régime de Daniel Ortega, eh bien, il est toujours question de négociations. Elles ont même repris la semaine dernière, après des mois d'interruption. Le dialogue progresse positivement avec l'opposition. Voilà ce qu'a dit cette nuit représentant du gouvernement. Le président Ortega s'est engagé à libérer les centaines de prisonniers politiques retenus dans le pays, mais va-t-il le faire, Olivier Poujade ?
Il y a très peu de doutes du côté de l'opposition sur le fait que Daniel Ortega ne respecte pas ce premier engagement, celui de libérer les opposants. Il s'agira aujourd'hui de s'entendre sur le chiffre exact de personnes emprisonnées ou assignées à résidence. Le président nicaraguayen n'en comptabilise que 400 lorsque les opposants, soutenus par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, parlent de près de 900 détenus. Mais Daniel Ortega n'est plus aujourd'hui en position de force. La répression de sa police nationale a encore été condamnée la semaine dernière par l'Organisation des États américains qui a pris la décision d'intégrer 2 facilitateurs à la table des négociations. Mais c'est la crise vénézuélienne surtout qui a le plus affaibli le président nicaraguayen. La sociologue Maria Teresa Blandón, membre de l'opposition, estime qu'Ortega n'a aujourd'hui plus aucun allié de poids sur la scène internationale.
Si Ortega a pu respecter le cadre du Fonds monétaire international ces dernières années, qu'il a pu sceller de solides alliances avec le secteur privé, c'est grâce à l'argent du Venezuela. Et aujourd'hui, la situation du Venezuela, cette crise, a placé Ortega dans une position précaire et désormais, il le sait, il est obligé de négocier.
Négocier encore à partir d'aujourd'hui des élections anticipées et une réforme de la loi électorale que réclamaient les manifestants pour que des partis d'opposition puissent de nouveau s'enregistrer auprès du tribunal électoral nicaraguayen. Mais comme Nicolas Maduro au Venezuela, Daniel Ortega cherche à gagner du temps, conserver la maîtrise des institutions et jusqu'ici aucun Juan Guaido, aucun leader n'est parvenu à fédérer l'opposition nicaraguayenne, à obtenir l'appui des États de la région pour incarner la contestation populaire et organiser le front face à Daniel Ortega.
Olivier Poujade, qui évoquait à l'instant le Venezuela voisin, le pays est toujours paralysé par une nouvelle panne d'électricité. L'opposition appelle à manifester après-demain samedi. Penchons-nous à présent sur cette représentation annulée lundi soir à la Sorbonne dans le cadre du festival Les Dionysis consacré à la tragédie grecque. Il s'agit de la représentation de la pièce Les Suppliantes, premier volet des Danaïdes d'Eschyle. L'entrée a été bloquée par une cinquantaine d'étudiants et de militants de la Ligue de défense noire africaine. Ils reprochent à la troupe d'utiliser du maquillage sombre et des masques pour personnifier les Danaïdes venus d'Afrique, Thomas Larabi.
Les actrices devaient à l'origine se peindre le corps en noir pour endosser leur rôle. Et selon les associations anti-négrophobie, ce n'est que sous la pression d'un groupe d'étudiants que l'université a voulu remplacer le maquillage par des masques. Des masques grossiers et inacceptables pour le président du CRAN, Guilain V2.
Des masques grotesques, avec des lèvres épaisses qui renvoyaient au même stéréotype raciste. Si des masques ne sont pas grotesques et qui ne renvoient pas à des caricatures racistes, on peut réfléchir, c'est tout ce que nous demandons.
Et quand le metteur en scène répond qu'il a déjà monté une pièce au Niger avec des actrices à la peau noire portant des masques blancs.
Et on ne peut pas aujourd'hui nous dire, voilà, il y a des noirs qui ont eu des masques blancs, donc on pourrait le faire dans l'autre sens. Non, ce n'est pas la même histoire. Les blancs n'ont jamais été déshumanisés.
L'université réfute toute accusation de racisme. Elle compte bien reprogrammer d'ailleurs ce spectacle le plus vite possible. Le doyen de la faculté de lettres de la Sorbonne, Alain Talon, dénonce des groupuscules haineux et un non-sens total.
Se faire traiter de raciste est assez pénible. Si ces gens-là avaient lu la pièce des Suppliantes, ça parle de l'accueil des migrants, ça parle de la libération des femmes, enfin, que ce sont des textes qui sont, oui, d'une actualité brûlante. Le blackface, c'est une pratique qui existe en effet, hélas, et qui consiste à se grimer pour se moquer des Noirs. C'est quelque chose que, évidemment, nous condamnons avec la plus grande fermeté. Il n'y a jamais eu de blackface à la Sorbonne. Jamais.
Le seul point d'accord, un débat sur les blackface qu'universitaires et associations antiracistes appellent de leur vœu.
Et notons qu'hier soir, les ministres de l'enseignement supérieur et de la culture ont condamné fermement l'annulation de cette pièce, évoquant la liberté d'expression et de création dans l'espace universitaire. Mathilde Serrel y consacrera son billet dans un gros quart d'heure. Ce jeudi sera globalement une belle journée ensoleillée. Notons quelques nuages bas sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Ce matin, il fait 9 degrés à Besançon et Lille, 11 à Paris, Rennes, Bayonne, 15 degrés à Marseille.